Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, nous vous proposons maintenant le verset 214 de la sainte sourate Al-Baqara. Notre frère Mouradam vous en donne la lecture chantée. Vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset rappelle les épreuves que l'homme a à subir avant d'être sauvé grâce à l'appel du messager.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَ والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر اللَّهِ قَرِيبٌ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
Pensez-vous vraiment entrer au paradis sans qu'il vous soit arrivé, comme à ceux qui furent avant vous? Rigueur et détresse les avaient touchés, et ils furent secoués jusqu'à ce que le messager, et avec lui, ceux qui avaient cru se fussent écriés. À quand le secours de Dieu? Quoi? Le secours de Dieu n'est-il pas proche, vraiment ?
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Mesdames et messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver sur les ondes de la radio francophone iranienne en ce vendredi 29 décembre 2023, le 8 day 1402 du calendrier persan. Nous allons vous présenter notre bulletin d'information qui sera suivi d'un commentaire politique. Restez à l'écoute. Notre vengeance sur Israël pour l'assassinat du général Mousavi ne sera rien d'autre que sa disparition. Au moins 20 Palestiniens tués lors d'une frappe israélienne à Rafah dans la bande de Gaza, et la résistance islamique irakienne frappe les positions des États-Unis dans la région. C'était les principaux titres de l'actualité. En voici les détails. Le commandant en chef du corps des gardiens de la révolution islamique a déclaré que la vengeance de l'Iran pour l'assassinat par le régime israélien d'un haut conseiller militaire iranien en Syrie ne serait rien d'autre que l'élimination totale d'Israël. Le général de division, Hossein Salami, a fait ses remarques jeudi lors d'un cortège funèbre pour le général de brigade Sayed Razi Mousavi, commandant du CGRI, qui est tombé en martyr lors d'une frappe aérienne israélienne sur un quartier de Damas lundi. Le martyr de Sayed Razi Mousavi est le résultat de l'incapacité du régime sioniste, a-t-il déclaré. Nous ne ferons jamais preuve de patience face aux martyrs de nos compatriotes. Notre vengeance pour l'assassinat de Sayed Razi ne sera rien d'autre que l'élimination du régime sioniste. Fin de citation. Le général Salami a décrit Mousavi comme l'un des commandants les plus expérimentés et les plus efficaces du CGRI. Le commandant assassiné était un camarade du légendaire commandant antiterroriste iranien, le général Qassem Soleimani, a-t-il déclaré, ajoutant que le général Mousavi n'avait jamais quitté le champ du djihad au cours des 45 dernières années. Le général Soleimani a été assassiné, lui, par les États-Unis en Irak en janvier 2020. Il était très vénéré en raison de son rôle clé dans la lutte contre le groupe terroriste Daesh créé par les États-Unis et soutenu par Israël. Salami a déclaré que l'opération Tempête d'Al-Aqsa, lancée par le mouvement de résistance palestinien Hamas, basé à Gaza contre Israël le 7 octobre, a été entièrement conçue et menée par les Palestiniens eux-mêmes. Il a ajouté, dixit, l'opération était une réaction à 75 ans d'occupation israélienne et de crimes et de meurtres de jeunes Palestiniens, ainsi qu'à la profanation par le régime de la mosquée Al-Aqsa et aux raids nocturnes en Cisjordanie. Les Iraniens ont pris part ce jeudi dans une cérémonie funéraire massive pour un haut conseiller militaire du corps des gardiens de la révolution islamique, Sayed Razi Mousavi, assassiné par Israël lundi dernier en Syrie. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, a déclaré que le Hamas avait informé l'Iran qu'il disposait de capacités suffisantes pour poursuivre la confrontation avec Israël dans la bande de Gaza assiégée pendant des mois. Amir Abdullahian a déclaré jeudi dans la ville sainte d'Orkham que plus de 80 jours se sont écoulés depuis la guerre à Gaza, mais le régime sioniste n'a rien obtenu. Selon les commandants du Hamas, seulement 14% des capacités de résistance ont été endommagées jusqu'à présent, a affirmé le ministre. Amir Abdullahian a ajouté que la longueur des tunnels du Hamas est aujourd'hui supérieure à la superficie de Gaza, indiquant que les ateliers de fabrication de drones de la résistance palestinienne n'ont pas été fermés, même une heure depuis l'opération de tempête Al-Aqsa le 7 octobre. Il a noté que plusieurs officiers haut gradés des forces de sécurité et militaires du régime sioniste ont été retenus captifs par le Hamas au premier jour de l'opération tempête d'Al-Aqsa, après quoi plus de 70% de la population de Gaza ont pris les armes et sont venus sur le champ de bataille pour défendre leur pays. Le ministre ensuite a fait allusion à la popularité croissante de la résistance palestinienne, affirmant que c'est le Hamas qui a le dessus à Gaza et à la guerre. Le ministre des Affaires étrangères a ajouté que le régime sioniste, à son tour, avait changé ses objectifs et sa stratégie à plusieurs reprises lors de la guerre à Gaza, mais n'avait pas réussi à atteindre ses objectifs. Les frappes aveugles d'Israël ont tué des dizaines de civils supplémentaires à travers Gaza, les camps de réfugiés étant les principales cibles de la guerre génocidaire du régime. Plus de 20 personnes ont été tuées jeudi après une attaque aérienne contre un immeuble résidentiel de la ville de Rafah dans la bande de Gaza. Les gens et les ambulanciers ont retrouvé vivants un enfant sous les décombres. Les frappes aériennes israéliennes ont également touché d'autres zones résidentielles du territoire palestinien. Pas moins de 10 personnes ont été tuées dans le bombardement d'une maison à Khan Younes. 8 autres ont perdu la vie lors d'une attaque contre le camp de réfugiés de Maghazi. Les responsables de la bande de Gaza ont confirmé jeudi que les frappes israéliennes avaient tué 210 Palestiniens. Au moins 21 320 personnes, dont en majorité des femmes et des enfants, ont été tuées dans la bande de Gaza assiégée depuis le début des attaques militaires israéliennes, selon le ministère palestinien de la Santé, dans l'enclave palestinienne. L'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens a averti qu'il n'y avait pas assez d'aide dans la bande de Gaza assiégée, laissant 40% de sa population en danger de famine en raison des restrictions imposées par le régime israélien à l'entrée des camions d'aide humanitaire indispensables dans l'enclave. En outre, le Bureau des droits de l'homme de l'ONU s'est déclaré choqué par le taux croissant de violence des colons israéliens à l'égard des Palestiniens en Cisjordanie occupée. Les combattants de la résistance irakienne islamique d'Irak ont pris pour cible une nouvelle fois jeudi le champ gazier Conoco en Syrie. Plus tôt jeudi, la résistance irakienne avait annoncé dans un communiqué avoir visé un centre d'espionnage appartenant au régime sioniste près de l'aéroport international d'Erbil au Kurdistan irakien en représailles au massacre des civils par le régime occupant. Au cours de ces dernières semaines, des bases américaines en Syrie et en Irak ont été attaquées à plusieurs reprises par des drones, des roquettes et des missiles de la résistance islamique irakienne. La résistance islamique en Irak avait auparavant annoncé qu'elle intensifierait ses attaques contre les bases américaines dans la région en soutien au peuple palestinien en raison de la complicité de Washington dans le massacre des Palestiniens. Plus tôt dans la journée jeudi, la résistance irakienne a annoncé dans un autre communiqué avoir mené une opération contre une cible vitale et clé dans le sud de la colonie de peuplement israélienne Eliad dans le Golan occupé. Et pour fermer le journal, sachez que le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a appelé à accélérer les préparatifs de guerre de son pays, y compris son programme d'armement nucléaire, en raison de la grave situation politique et militaire causée, selon lui, par les manœuvres de confrontation des États-Unis et de leurs alliés, ont rapporté jeudi 28 décembre les médias d'État nord-coréens. Au cours de la réunion plénière du comité central du Parti des travailleurs de Corée, grand messe annuelle du Parti unique au pouvoir en Corée du Nord, Kim Jong-un a ordonné à l'armée populaire nord-coréenne, à l'industrie des munitions, au secteur des armes nucléaires et de la défense civile d'accélérer les préparatifs de guerre, a rapporté l'agence officielle KCNA. La Corée du Nord a procédé cette année à un nombre record d'essais de missiles balistiques, en violation, selon certaines sources, de nombreuses résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. En 2023, elle a gravé dans sa constitution son statut de puissance nucléaire, a lancé avec succès un satellite militaire espion, c'est-à-dire de reconnaissance, et a testé également avec succès le Hwasong-18, le missile balistique international ICBM le plus puissant de son arsenal, capable d'atteindre même les États-Unis. C'était le journal. Merci à vous de l'avoir suivi et restez à l'écoute de notre commentaire politique qui porte sur les moyens par lesquels les pays africains pourront protéger leur souveraineté économique face à un système financier international façonné par l'Occident. Restez avec nous. L'Afrique doit secouer le joug du système financier international. Tel est le thème de notre commentaire politique. Les pays africains doivent protéger leur souveraineté économique face à un système financier international, parfois corseté par l'Occident, a expliqué à Sputnik Afrique le militant panafricain Abdoulaye Nabaloum. Sortir de l'aliénation occidentale. L'Afrique doit se méfier des discours portés par les institutions financières internationales comme le FMI ou la Banque mondiale qui aliènent sa souveraineté économique, a déclaré Sputnik Abdoulaye Nabaloum, fondateur de l'association Action pour la souveraineté des peuples. Les mécanismes de Bretton Woods ont permis de maintenir l'Afrique dans une situation difficile, une situation de précarité qui alimente aujourd'hui toutes les tensions. Nous avons compris qu'il y avait deux langages, le langage de la vérité sur nos ressources naturelles et le langage du mensonge qui veut nous inculquer que nous sommes des États pauvres et que nous devons être sous perfusion du système financier international, explique-t-il ainsi. Sur le dossier ukrainien, certains acteurs occidentaux ont d'ailleurs voulu manipuler les outils financiers internationaux pour sanctionner la Russie, ce qui a renforcé la méfiance à leur égard, affirme encore Abdoulaye Nabaloum. L'incapacité des institutions financières internationales à coller aux réalités africaines n'est cependant pas une fatalité, car des alternatives ont peu à peu vu le jour. Les BRICS portent notamment une vision plus multipolaire qui pourrait séduire le Sud global, note le militant panafricain. C'est une très bonne chose d'avoir pensé à ce multipolarisme. Il faudra que les BRICS fassent le diagnostic de ce qui n'a pas marché avec les institutions de Bretton Woods pour favoriser d'abord le développement, déclare-t-il ainsi. La possible mise en place d'une monnaie commune aux BRICS pourrait notamment briser la domination du dollar. Le travail du groupe pour trouver une alternative au système de paiement bancaire SWIFT doit également être suivi de près, souligne Abdoulaye Nabaloum. Cette évolution vers un monde multipolaire pourrait favoriser drastiquement la situation économique financière dans des pays africains, conclut-il.
Bonjour à tous, bienvenue. Aujourd'hui, nous vous proposons le sujet de cette coalition navale que les États américains ont décidé de mettre en place. Et pourtant, apparemment, les pays européens, notamment ayant pour cause la Méditerranée, ne semblent pas suivre. En tout cas, ils sont bien déterminés à garder leur souveraineté et leurs décisions. Je vous propose tout d'abord un reportage qui fera la mise au point de la situation. Et par la suite, nous ferons venir donc nos deux invités. Tout de suite, le reportage.
Le trio France, Espagne, Italie a dit non au projet américain de créer une coalition navale en mer Rouge visant à contrer les attaques des forces yéménites contre des navires cibles israéliens. La France, l'Espagne et l'Italie se sont officiellement retirés de la coalition maritime censée être dirigée par les États-Unis dans la mer Rouge pour protéger la circulation des navires de commerce israéliens ou ceux qui se dirigent vers la Palestine occupée. Les trois pays ont explicitement déclaré leur engagement à opérer exclusivement sous le commandement d'organismes internationaux tels que les Nations Unies, l'OTAN ou l'Union européenne, préférant ne pas s'aligner sur les États-Unis. Le ministère français de la Défense a annoncé dans un communiqué qu'il soutenait les efforts visant à garantir la liberté de navigation en mer Rouge et dans ses environs. Cependant, le ministère français a souligné que ces navires resteraient sous commandement français en ne précisant pas s'il y aurait un déploiement supplémentaire de forces navales. Le ministère italien de la Défense a également annoncé qu'en réponse aux demandes spécifiques des armateurs italiens, il enverrait la frégate Virginio faisant en mer Rouge pour protéger les intérêts nationaux. Il a cependant souligné que cela ne faisait pas partie de la coalition navale dirigée par les États-Unis. Quant au ministère espagnol de la Défense, il a annoncé aussi qu'il ne participerait qu'aux missions dirigées par l'OTAN ou coordonnées par l'UE. Le jeudi 21 décembre, le Pentagone a déclaré que plus de 20 pays avaient désormais accepté de participer à la mission maritime menée par les États-Unis en mer Rouge, connue sous le nom d'opération Prosperity Guardian. Le manque de détails et de clarté sur ce que font les pays a ajouté à la confusion parmi les compagnies maritimes dont certaines détournent leurs navires de la région au milieu d'une série de frappes de drones et de missiles des forces yéménites en représailles aux attaques israéliennes contre Gaza. Le chef du Pentagone, Lloyd Austin, a annoncé mardi la formation de la coalition comprenant Bahreïn, le Canada, la France, l'Italie, les Pays-Bas, la Norvège, les Seychelles, l'Espagne et le Royaume-Uni. Lloyd Austin a fait part de l'adhésion de la Grèce et de l'Australie à la coalition et l'a ajouté qu'au moins 8 pays participants avaient refusé d'être nommés publiquement. Les Yéménites ont déclaré leur soutien ouvert à la lutte de la Palestine contre les occupants israéliens depuis que le régime a lancé une guerre dévastatrice contre Gaza le 7 octobre après que la résistance palestinienne a mené l'opération surprise Tempête d'Al-Aqsa contre l'entité occupante. Les attaques brutales et barbares de l'armée israélienne contre Gaza depuis le 7 octobre ont tué au moins 20 258 personnes, pour la plupart des femmes et des enfants. 53 688 personnes ont également été blessées.
Nous revoilà donc sur le plateau. Nous allons d'abord faire venir nos deux invités. Yalia nous a rejoint donc Maître Arnaud Develet, juriste international. Bonjour Maître Develet, ravi de vous avoir avec nous aujourd'hui.
Oui, bonjour à vous et bonjour à votre invité. Et bien sûr, joyeux Noël à ceux qui le célèbrent aujourd'hui.
Merci, Maître Develet. Deuxième invité étant M. Bernard Cornu, invité régulier, surtout notamment depuis les attaques du 7 octobre. Bonjour, M. Cornu, ravi de vous avoir avec nous aujourd'hui.
Bonjour à toutes et à tous aujourd'hui. Merci. Jour de fête hein, dans l'Occident et aussi dans la Palestine chrétienne et l'Orient chrétien. Ceci est important, ça a d'ailleurs été rappelé par notre président par un coup de fil, patriarche latin de Jérusalem.
Tout à fait, dont un discours réalisé par le prêtre de Bethléem concernant donc les massacres donc à Gaza et le fait que tout simplement Bethléem ne célébrera pas la Noël du fait de la situation à Gaza pour bien montrer qu'il y a une unité parmi les Palestiniens. Monsieur Maître Develet, alors nous avons une situation assez intéressante parce que nous avons les médias qui ont tout de suite annoncé avec des gros titres une coalition extrêmement forte de la même époque que la Seconde Guerre mondiale avec les anciens alliés qui se joignent à la protection de la mer Rouge et puis des gens qui ont décidé d'analyser les réactions internationales, donc les réactions écrites par ces États, notamment l'Espagne, l'Italie et la France. Et là, on s'aperçoit que l'accord donné aux Américains est loin d'être sous la forme d'une coalition, mais plutôt nous sommes présents, mais nous gardons notre souveraineté de décision et nous ne sommes pas là pour protéger l'État sioniste. C'est clairement une grande différence par rapport aux propos tenus sur le fait que cette coalition existe. Alors, dès le départ, finalement, cette coalition n'a pas existé. Maître Develet.
Oui, je pense qu'il faut raison garder parce que derrière ce discours nuancé, je pense que dans les grandes lignes, il y aura une forme de coagulation, hein, de toute manière. Pour des raisons évidentes, c'est que ces États ont besoin de s'assurer que pour leurs intérêts personnels, leurs intérêts commerciaux, les voies maritimes, notamment celles passant par la mer Rouge et partant de le canal de Suez, soient dégagées. Donc ils ont beau essayer de dire que s'ils s'inscrivent dans une forme d'action coordonnée, ce serait au travers d'une résolution de l'ONU, ce que pour l'instant n'est pas le cas, puisqu'il n'y a même pas eu de discussion sur le sujet, soit au travers de l'OTAN, où on peut penser que dans ces cas-là, les déclarations qui ont été faites par ces pays sont un peu bizarres, dans le sens où chacune d'entre elles forcément appartient comme un membre intégré de l'organisation, et aussi quelque part parce que il existe déjà un dispositif otanesque au large des côtes de la Somalie, justement pour lutter contre la piraterie, et que comme par hasard, c'est un dispositif qui comprend 39 pays, dont une bonne partie d'entre elles représente presque État pour État la composition de l'OTAN. Donc il est dans ce contexte-là pas improbable que cette structure, ce dispositif soit en fait utilisé ensuite pour garantir la circulation maritime de leurs navires dans la mer Rouge. Donc quelque part, je pense que ce sont plus des déclarations de principe pour essayer de dissuader l'opinion publique de penser qu'il s'agit juste d'une coalition un peu à ce qui s'était fait à l'époque avant la guerre, avant l'agression contre l'Irak. Mais que dans les faits, je pense qu'il va y avoir, une forme de coalition maritime qui regroupera effectivement les principaux pays de l'OTAN avec probablement quelques pays supplémentaires pour donner le change. Mais on se dirige vers quelque chose de ce type, ouais. malgré les précautions sémantiques et cosmétiques de certains pays.
Enfin, la Russie a révélé ce matin ou hier des images satellitaires sur la présence de navires étrangers en mer Rouge. Il y a notamment des navires militaires chinois basés à Djibouti depuis le 20 décembre. Donc ce sont des présences militaires bien précises. On n'oublie pas les accords qu'il y a entre la France et la Chine notamment. Concernant donc les relations internationales. La Russie a également montré que les navires indiens n'étaient pas attaqués et pouvaient traverser la mer Rouge. les navires iraniens également. C'est ce qu'a montré donc cette image satellitaire. Donc il laisse quand même à penser qu'il y pourrait y avoir une réaction si, on va dire, l'ordre lors d'une situation mondiale puisse faillir. Et la Chine se tient prêt, Djibouti étant pas très loin. Maître Develet, je continue avec vous sur le même sujet.
Je pense que c'est surtout eu égard aux pays qui soutiennent militairement et diplomatiquement l'agression sur Gaza qui sont visés. Donc, dans le sens où les marines de ces autres pays que vous avez mentionnés puissent être bien sûr présents dans la région, c'est surtout pour s'assurer que leurs propres navires ne sont pas affectés par. Parce qu'il pourrait se développer comme un échange entre la résistance yéménite et ces pays. Mais effectivement, quand vous avez autant de navires dans un espace assez confiné, c'est une situation extrêmement volatile, explosive, qui peut, à la faveur d'une erreur, d'une confusion, ou simplement le fait que, bon, encore une fois, c'est une poudrière. Ça pourrait effectivement développer dans quelque chose de plus grave qui incorporerait des pays qui pour l'instant ne sont pas directement concernés par la situation que nous évoquons aujourd'hui. Donc l'un comme l'autre, c'est quelle que soit la manière dont on considère la situation, c'est une situation explosive, c'est certain.
Merci, Maître Delay. Monsieur Cornu, alors nous avons vu donc ces réactions ces dernières heures, enfin ces dernières heures, c'est plutôt ces derniers jours. Nous savons aussi que nous sommes face à une résistance humainement depuis plusieurs années engagée, donc nous ne sommes pas face à des soldats qui ont été entraînés de manière virtuelle dans leur propre pays, mais plutôt des soldats qui ont appris sur le terrain. C'est surtout le cas des Houthis, donc le cas de la résistance yéménite. Il y a également des images de mobilisation générale à travers le pays du Yémen qui laissent entendre que la situation à Gaza, parce qu'ils ont toujours donné la limite de Gaza, c'est-à-dire si ça s'arrête à Gaza, nous on arrête tout. Ils n'ont pas parlé forcément de la situation géopolitique de la Palestine. Ils ont été extrêmement précis dans leurs revendications. Vous arrêtez ce qui se passe à Gaza et nous, nous arrêtons tout simplement. Et on voit donc cette escalade qui se passe en Yémen avec ces images de militaires qui commencent à se mobiliser, cette fois même physiques. On ne parle plus de drones, on ne parle plus d'hélicoptères qui viendraient embêter les navires, mais plutôt d'un engagement militaire physique de soldats sur terre, en sachant qu'en plus, à Gaza, les entités sionistes se sont retirées. À quoi on peut s'attendre si l'entité sioniste et les Américains, puisque derrière il y a les Américains, ne décident pas finalement de mettre fin, en sachant qu'aujourd'hui, nous devons rappeler ça à nos téléspectateurs, 70 personnes en cette veille de Noël, ce réveillon de Noël, sont mortes dans un des camps de réfugiés de Gaza les plus, le plus nombreux. Donc on peut s'attendre à des chiffres beaucoup plus importants en dessous des gravats. Donc c'est vraiment des choses qu'on ne parle encore que de vie humaine, on ne parle pas d'action militaire et de pensée militaire. Là, on parle vraiment de sauver des vies, de sauver des enfants et des femmes. Monsieur Cornu.
Oui, tout à fait. Les massacres continuent à Gaza, même si une partie des brigades Golani israéliennes s'est retirée. Les combats continuent et ceci est terrible. Mais eux aussi, ils sont de plus en plus dénoncés en Europe. Et les appels, disons, civils à des pressions politiques pour que cesse ce massacre, c'est-à-dire cesse cette agression de l'armée israélienne, se multiplient. Il y a eu quelques jours une pétition, il y a de nouveaux interviews de personnalités comme M. Ronny Broman, ancien président de MSF, qui critique toutes ces exactions israéliennes, et l'entrée en action des forces houthies avec ces images qui ont été très diffusées d'un hélicoptère qui débarque quelques militaires houthis sur le pont d'un cargo m'ont rappelé d'ailleurs une intervention américaine et avec les Australiens et les Britanniques de parachutistes qui ont débarqué sur un bateau qui amenait au mois de janvier 1991, il y a longtemps, au moment de la veille de la guerre du Golfe, des femmes de différents pays arabes, parties de Tunisie, mais ayant accosté aussi en Égypte, enfin au canal de Suez, pour embarquer des femmes arabes qui protestaient contre l'intervention américaine qui avait été programmée et qui, hélas, d'ailleurs, avait été acceptée par le président Mitterrand très discrètement par un coup de téléphone avec M. Bush. Donc moi, je salue quand même cette initiative de trois pays européens de tendances différentes. D'ailleurs, on a maintenant des socialistes au pouvoir avec une coalition en Espagne. On a en Italie une coalition de droite et on a notre président Macron qui se situe au centre. Donc cela montre aussi que les pays européens, même s'ils sont parfois de nature politique un peu différente, peuvent s'entendre pour s'opposer à une dictature américaine qui impose toujours la force et qui soutient de façon complètement injuste l'État israélien qui est occupant, qui est terroriste et qui agresse et qui a fait des dizaines de milliers de morts maintenant à Gaza et qui continue et qui estime complètement à tort qu'il respecte le droit humanitaire de la guerre. Donc c'est quand même un signe que l'Europe est capable de se rebeller contre cet impérium américain et contre cette dictature de la force et qu'elle appelle à une conduite des opérations militaires sous un état-major beaucoup plus collectif, que ce soit celui de l'OTAN. La France maintient pour l'instant son commandement propre de ses propres bateaux militaires présents dans la région et l'Italie aussi revendique aussi de s'affranchir de cette tutelle américaine, ce qui est quand même assez fort de la part d'un gouvernement de droite européen.
Donc je pense que c'est quand même aussi un point. Il y a aussi un point important, c'est que autant les Américains n'ont pas de légitimité d'être en Méditerranée, autant ces trois pays européens sont directement sur la Méditerranée, ils ont une partie territoriale à eux. Donc d'une certaine manière, ça ne donne pas de légitimité aux Américains de pouvoir réagir en mer Méditerranée. L'Égypte également, dès le début, n'a pas donné son accord pour rentrer dans aucune coalition concernant la situation de la Palestine. Donc c'est quand même un message fort d'un point de vue géopolitique sur la région. Quand on pense à la Méditerranée, est-ce que la mer Rouge passe par la Méditerranée? Donc d'une certaine manière, est-ce que les navires américains ont le droit de naviguer comme ça aussi librement? C'est là qu'on se pose la question. Est-ce que les Français l'ont dit? Ils disent on n'est pas là pour défendre vos intérêts concernant l'entité sioniste. Ils ont eu un message un peu plus fort que même l'Espagne ou l'Italie en disant nous voulons notre propre liberté d'action et nous obéissons pas à vos ordres militaires.
Oui, tout à fait. Mais hélas, la puissance américaine, l'hyperpuissance américaine, le Pentagone, se croient facilement des légitimités en signant des accords avec des pays dans lesquels ils sont, disons, en phase politique où ils manœuvrent avec des gouvernements autoritaires ça leur a permis d'établir des bases un peu partout dans le monde. C'est évident qu'ils ont des bases partout et qu'ils eux-mêmes s'autorisent à aller partout. Donc, mais je pense qu'effectivement, il y a quand même une sorte de rébellion européenne contre ça, qui effectivement est encore timide de la part de l'Allemagne, de certains pays, mais ce signe de refus clair de trois pays sud-méditerranéens, enfin européens du sud, est quand même un signe que les choses commencent à s'organiser pour que l'Europe, qui est quand même la plus grande puissance économique au monde, enfin, et qui a une capacité énorme, puisse, disons, proposer une autre gestion des crises. Et comme j'ai souvent rappelé, le seul moyen, la seule type de résolution des Nations Unies qui soit contraignant, ce sont des résolutions sur le chapitre 7 qui permet le recours à la force pour revenir à la paix, pour prévenir une aggravation d'une crise, et c'est tout à fait le cas actuellement, ce qui se passe entre Israël et la Palestine. Et donc, la résolution, le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies impose qu'il y ait un comité d'état-major collectif de plusieurs pays impliqués dans la gestion de cette crise. Ce premier signe, même s'il est encore assez timide, de trois pays européens, est un signe qu'ils veulent appliquer à fond le droit international et non pas se soumettre à un diktat de l'impérium américain et de l'armée américaine.
Merci, M. Cornu. Maître Develay, il y a encore un point que j'aimerais parler avec vous, c'est l'engagement de ces pays européens, contrairement aux États-Unis et à l'entité sioniste, d'être engagés sur les accords de Genève, d'être engagés au nom de la CPI. Donc il y a quand même un risque juridique que les pays américains, que les pays européens, excusez-moi, s'engagent dans ce que font l'entité sioniste, parce que les exactions génocidaires sont avérées, sont prouvées, des avocats se sont mis en route dès le début, dès les premières prémices de ce génocide, pour présenter les choses devant la CPI. Donc il y a quand même un risque juridique si les Européens se montrent, ne freinent pas un peu le jeu, parce que eux-mêmes, contrairement aux Américains, je répète encore, il y a une différence en fait de réaction, puisque se sont engagés face à des accords internationaux qui pourraient leur nuire.
Oui, enfin, je pense que c'est un peu exagéré, enfin, eu égard à ce que on pourrait penser quant à les inquiétudes de ces pays pour certains des accords juridiques ou des conventions juridiques, ou même de la CPI, puisque la CPI n'a même pas pour l'instant pris l'initiative d'émettre un mandat d'arrêt international contre un boucher, alors qu'ils se sont empressés sans même regarder de manière attentionnée les charges qui étaient présentées concernant le président Poutine. Ils se sont empressés au mois de mars dernier d'émettre un mandat d'arrêt pour l'histoire des enfants qui auraient été soi-disant enlevés dans la région du Donbass. Donc bon, s'il y a bien un cas typique qui représente celui du génocide, c'est bien ce qui se passe à Gaza. Et pour l'instant, la CPI, on n'entend rien du tout et on ne voit pas de pression émanant de Paris ou des États européens de manière générale, en joignant la Cour de faire ce pourquoi elle a été créée. Donc, et je rappellerai à nos téléspectateurs que les États-Unis actuellement font pression, et il doit normalement y avoir une conférence sur la situation à Gaza à Genève, au Conseil des droits de l'homme, et pour l'instant, les États-Unis font pression pour que cette conférence n'ait pas lieu. Et on n'entend pas ces États, je veux dire, s'offusquer de quoi que ce soit, des pressions émanant de Washington. J'ajouterai à ça que je ne suis pas, je ne sais pas ce qui se passe, quelle est l'ambiance en Espagne ou en Italie, mais enfin, en France, sur le sujet depuis le 7 octobre, c'est très monotone. Enfin, on n'entend qu'un son de cloche. Et c'est celui que l'entité sioniste a le droit de se défendre. On a encore vu un député, Meir Habib, littéralement dire que plus ça allait être en fait dans le sens de ce qui se passe à Gaza en ce moment. Il a été cité par 39 députés de la France insoumise pour référence, pour engager des poursuites disciplinaires au sein du Code de l'Assemblée. Et ça a été rejeté par la présidente de l'Assemblée, laquelle, Yaëlle Braun-Pivet, s'est empressée dès le début des événements, de la séquence actuelle en tout cas, de se rendre à Tel Aviv et d'exprimer son soutien inconditionnel au régime d'occupation. Donc, il faut raison garder. La France, en tout cas en ce qui concerne la France, est complètement alignée sur ce qui est actuellement, malheureusement, mis en place comme politique entre guillemets par Tel Aviv, et je ne vois pas du tout en cela comment ça changerait, pourquoi les choses changeraient de manière à ce qu'on puisse se dire que la France retrouve l'honneur qui lui fut sien il y a déjà un demi-siècle.
Merci, Maître Develé. C'est sur ces mots que nous finissons donc notre débat. Monsieur Cornu, merci Bernard Cornu, monsieur Maître Develé, je vous remercie pour votre participation. De nouveau, nos pensées vont vers ces 70 morts et plus, puisqu'encore une fois, nous ne savons pas le nombre exact, puisque plusieurs familles sont encore sous les gravats. Cette nuit, durant donc la veille de Noël, les Palestiniens ont subi une grande attaque dans un des camps les plus importants de Gaza, de nouveau. Donc nos pensées vont vers ces familles, vont vers les Palestiniens. Et nous souhaitons aux chrétiens de Palestine et du monde un bon Noël, malgré les circonstances. Je vous dis à bientôt pour un autre sujet du débat. Au revoir.
Mesdames, Messieurs, chers auditeurs et auditrices, bonjour et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle émission qui portent sur l'assassinat par Israël du conseiller militaire iranien en Syrie. L'assassinat par Israël du conseiller militaire du CGRI en Syrie montre sa défaite à Gaza. La dernière agression du régime israélien contre la Syrie, qui a tué un haut conseiller militaire iranien, est un signe de désespoir alors que les mouvements de résistance dans la région ont mis le régime en retrait au milieu de la guerre à Gaza. Lundi après-midi, le général de brigade Seyed Razi Mousavi, commandant supérieur du corps des gardiens de la révolution islamique CGRI et conseiller militaire en poste en Syrie, a été assassiné lors d'une frappe aérienne à proximité de Sayeda Zainab dans la campagne de Damas. Mousavi était un conseiller militaire chevronné et l'un des commandants du CGRI, chargé de fournir un soutien logistique à l'axe de la résistance en Syrie. Le communiqué du CGRI a indiqué que Mousavi était un camarade du plus haut commandant antiterroriste iranien, le général de corps d'armée Qassem Soleimani, ancien chef de la force Quds du CGRI, assassiné lors d'une frappe aérienne américaine en Irak en janvier 2020. Mousavi aurait survécu à plusieurs tentatives d'assassinat au cours des dernières années. L'année dernière, la chaîne 14 israélienne a décrit Mousavi comme le directeur du bureau de liaison entre Damas et Téhéran, démontrant qu'il était sous la loupe du régime sioniste depuis longtemps. L'ambassadeur d'Iran en Syrie, Hossein Akbari, a déclaré aux médias que 3 missiles avaient frappé sa maison près de Damas quelques heures seulement après son retour de l'ambassade iranienne. Akbari a souligné que Mousavi était titulaire d'un passeport diplomatique et d'un lieu de résidence et que selon les conventions internationales de 1961 et 1973, son assassinat constitue un crime flagrant. L'ambassadeur iranien en poste à Damas a également déclaré que le lieu de résidence du commandant du CGRI qui a été assassiné était bien connu et que l'attaque terroriste israélienne n'avait donc pas nécessité un travail de renseignement approfondi. L'Iran maintient une mission consultative en Syrie à la demande de Damas pour aider ce pays à se débarrasser des terroristes soutenus par l'étranger qui combattent le gouvernement syrien depuis 2011. Le régime israélien et les États-Unis ont travaillé main dans la main avec le groupe terroriste Daesh et d'autres groupes terroristes en Syrie, menant de fréquentes attaques contre les forces associées au gouvernement syrien et à ses alliés. Le président iranien Ibrahim Raisi a souligné lundi dans un message que l'assassinat du conseiller militaire du CGRI lors d'une attaque de missiles en Syrie était un autre signe de la frustration, de l'impuissance et de l'incapacité du régime usurpateur sioniste. Le président iranien a affirmé que le régime israélien paiera pour sûr le prix de son acte criminel. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, a également présenté dans un message ses condoléances à la famille de Mousavi ainsi qu'aux nations iraniennes et syriennes. Cet honorable martyr a combattu courageusement contre les terroristes pendant de nombreuses années aux côtés du martyr Haj Qassem Soleimani pour assurer la sécurité de l'Iran et de la région de l'Asie de l'Ouest, a écrit le premier diplomate iranien dans un message sur X. Tel Aviv doit s'attendre à un compte à rebours difficile, s'est-il empressé d'ajouter dans un sévère avertissement. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Nasser Kanani, a également fermement condamné cette action terroriste du régime israélien, affirmant que cet acte cruel et lâche était un autre signe de la nature terroriste du régime israélien. Kanani a ajouté que la République islamique d'Iran se réserve le droit de prendre les mesures nécessaires et de répondre à cet acte au bon endroit et au bon moment. Depuis son existence néfaste, le régime sioniste a commis divers types de crimes en violant de manière répétée et continue les réglementations et normes internationales, et aujourd'hui il a également commis un acte terroriste lâche et agressif, a-t-il dénoncé. Le porte-parole du ministère iranien de la Défense, le général de brigade Reza Talaini, a lui aussi fermement condamné l'attaque terroriste israélienne, soulignant que ce régime méritait une condamnation et une punition mondiale. Le régime israélien devrait attendre les représailles de sa récente attaque terroriste. Attendre le moment d'en payer le prix torturera à mort les sionistes et leurs éléments, a-t-il déclaré mardi lors d'une conférence de presse. Il a également décrit les actions des États-Unis et du régime sioniste en dehors de la bande de Gaza comme un signe de bellicisme, faisant référence à leur récente attaque contre les mouvements de résistance en Syrie et en Irak. Mercredi, le porte-parole du CGRI, le général de brigade Ramezan Sharif, a promis que l'Iran répondra de manière appropriée au régime israélien. Le porte-parole du CGRI a souligné qu'avec la mort en martyr de Mousavi, il n'y aura certainement aucune interruption de nos missions pour affronter le régime sioniste. Le mouvement de résistance libanais Hezbollah a condamné l'attaque flagrante et éhontée du lundi 25 décembre à Damas. Le mouvement libanais a ajouté que Mousavi a consacré des décennies de sa vie à soutenir la résistance islamique au Liban et il a inlassablement aidé la résistance et ses combattants. La dernière attaque israélienne n'est pas sans rappeler l'attaque américaine contre le général Soleimani il y a 4 ans, une tentative désespérée de changer la situation en Irak en sa faveur après une série d'échecs. Les deux martyrs du CGRI ont joué un rôle déterminant dans la défaite de Daesh en Syrie et dans le renforcement de l'axe de la résistance. Ils étaient également les plus redoutés par les responsables du régime israélien. Une photo du général Soleimani et de son fidèle assistant et confident circule depuis lundi sur les réseaux sociaux. Un clip vidéo du conseiller militaire parlant avec le général Soleimani a été largement partagé, montrant le profond respect qu'ils avaient l'un pour l'autre. L'attaque mortelle contre le responsable du CGRI est survenue au milieu de la guerre génocidaire menée par le régime israélien contre les Palestiniens à Gaza et de la montée en puissance de l'axe de la résistance. Il y a eu une série d'attaques contre les intérêts américains et israéliens dans la région ces dernières semaines, y compris en Syrie, alors que les mouvements de résistance se regroupent pour riposter au régime infanticide. Le régime israélien tente de restaurer sa force dissuasive perdue par des assassinats, et les observateurs estiment qu'il est peu probable qu'avec des actes de terrorisme aussi lâches, ce régime criminel puisse la regagner un jour.
Chers auditeurs, vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur onde courte, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.